إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc inshallah nous entamons une nouvelle série de cours. J'ai choisi un ouvrage qui est un recueil, l'explication d'un choix de hadith, d'un recueil de hadith du prophète alayhi salatu wassalam, fait par le grand savant le Sheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Donc l'université islamique de Médine, qu'Allah la préserve de tout mal et qu'Allah récompense toutes les personnes qui ont contribué à cette école qui a beaucoup servi dans la communauté musulmane et ceci dans le monde entier. Depuis sa fondation aux environs de 1960 jusqu'à nos jours. Combien de grands savants sont passés par cette école en tant qu'enseignants et aussi combien sont sortis et ont été ont reçu les enseignements de cette école. Et parmi les bienfaits de cette école, c'est qu'elle de temps à autre faisait, je ne sais pas si elle le fait encore, mais elle le faisait, des séminaires dans le monde musulman, des séminaires. Donc ils envoyaient des professeurs, des chouyours, des savants pour enseigner l'islam pendant une certaine période. Surtout pendant l'été, pendant les vacances scolaires. Et elle a demandé à des professeurs, à des chouyours de l'université, de préparer des programmes pour ces séminaires. D'accord ? Donc, il y en a eu dans plusieurs matières. Ils avaient demandé au Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, le grand savant et le grand muhaddith de Médine, et ancien président de l'université islamique de Médine, et ancien professeur dans cette même université, et toujours professeur dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est âgé de près de 85 ans aujourd'hui, hafidhahullahu ta'ala. Et lui, avec un autre professeur, ils avaient préparé le programme de l'étude des sciences du hadith, mustalah al-hadith. Donc ils ont fait un écrit là-dessus, un condensé, un précis, un mémento, si on peut dire, concernant les précis du hadith. Ils avaient demandé à Cheikh Saleh al-Suhaymi, hafidhahullah, que c'est un grand savant de Médine, ancien professeur à l'université islamique de Médine. Lui, il est diplômé de l'université islamique de Médine et il enseigne dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et lui, il a fait le programme dans l'aqidah, dans la croyance, le dogme, un précis là-dessus. Et ils ont demandé au Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, donc Cheikh Rabi', qui est âgé aujourd'hui de 86 ans. Il est âgé de 86 ans, un ancien élève de l'université islamique de Médine, diplômé de Médine et d'autres universités, qui est docteur, et donc qui a fait, lui, un choix, un recueil de hadiths, à peu près 23 hadiths, avec des explications et des commentaires simplifiés, d'accord, et qui ont servi donc à ces programme pour les séminaires qui ont beaucoup servi surtout en Afrique et en Asie. Donc مذكرة الحديث النبوي. Donc hein, c'est un précis, un memento concernant le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc là, ce sont les textes, l'étude de textes du prophète عليه الصلاة والسلام. Et c'est un choix qui a été fait dans les domaines dont les sujets concernent la croyance, le dogme et al-manhaj, la méthodologie et la voie à entreprendre, à suivre. Donc l'auteur, c'est comme on a dit, Cheikh Rabi', hafizahullah ta'ala, qui est né aux environs de 1930, dans le sud de l'Arabie, dans la région de Jizan, qui n'est pas loin de la frontière yéménite, et qui est la ville connue de Samita, qui est connue aussi pour avoir des écoles qui enseignent l'islam authentique, car c'était une région qui était avant la venue de l'État saoudien, qu'il y avait beaucoup d'innovations et d'actes de polythéisme dans ces régions-là, car il y avait des chouyours qui étaient touchés par le soufisme et autres, et qui n'enseignaient pas le véritable islam. Puis, le grand mufti de l'époque, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui est décédé en 1969 à peu près, rahimahullah, qui est très connu et qui est le professeur de la majorité des chiours et des savants d'Arabie, il a envoyé un grand cheikh, un grand savant de Najd, qui s'appelle le cheikh Abdullah al-Qarawi. Le cheikh Abdullah al-Qarawi, donc, il est venu en tant que prêcheur et enseignant dans cette région, et par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et les efforts entrepris, il a nettoyé cette région de tout ce qui entachait le véritable islam. Et donc, il a fondé des écoles qui ont enseigné le monothéisme, le tawhid, et la sunna, et la voie des pieux prédécesseurs. Parmi ses grands élèves qu'il a eu, Cheikh Abdullah Al-Qarawi, rahimahullah, il y a le grand Cheikh connu qui est mort jeune, mais qui était reconnu pour être un savant, le Cheikh Hafiz Al-Hakami, rahimahullah ta'ala, qui est mort à l'âge de à peu près 35 ans, dans les années 50, mais qui était connu est reconnu pour sa science et sa vertu. Puis, donc, ils ont ouvert cette école et donc beaucoup de chiours ont enseigné dans cette école et beaucoup de chiours sont sortis de ces écoles, comme Cheikh Zayd al-Madkhali, Cheikh Rabi' al-Madkhali et plein d'autres. Parmi ceux qui ont enseigné dans ces écoles, après la mort de Cheikh Hafiz Hakami, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, il a envoyé ce grand savant qui est Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Avant de venir enseigner à Médine, il est parti dans le sud de l'Arabie et il enseignait dans ses écoles de Cheikh Abdullah al-Qarawi, rahimahullah ta'ala. Puis Cheikh Rabi', après avoir terminé ses études là-bas, il est parti à Riyad vers les années 1959 à peu près. Il n'est pas resté longtemps puisque en 1960, l'université islamique de Médine a ouvert. Et il a demandé à être affecté dans cette université qui venait d'être ouverte en 1960. Donc il est venu à Médine et il était parmi les premiers élèves à l'ouverture de l'université islamique de Médine. Puis il aura ses diplômes dans cette université et le doctorat, il le passera à Mecca. Le doctorat, il le passera à Mecca, donc il aura son doctorat à Mecca. Il s'est beaucoup spécialisé dans Sahih Muslim. Donc c'est pour ça que ses thèses, elles concernent l'authentique de Muslim. Il a une thèse qui concerne l'imam Muslim et comment il a compilé et rangé son Sahih. Il en a une autre qui concerne une étude entre une comparaison ou une étude des avis entre l'imam Dharqutni et l'imam Muslim, dans les techniques du hadith, et plein d'autres ouvrages. Certaines personnes connaissent Cheikh Rabi' en bien, d'autres l'ignorent, et d'autres n'entendent que du mal. Ce n'est pas parce qu'on entend du mal de quelqu'un que cela veut dire que cette personne elle est mauvaise, non. Il se peut que oui, il se peut que non. Mais toute personne, et en premier lieu les prophètes et les messagers qui sont les plus véridiques des hommes, ont eu des ennemis. Et tous ceux qui prennent le chemin des prophètes et la méthodologie des prophètes, Allah a décrété que dans ce bas monde, il y ait le combat entre le vrai et le faux. Donc ils seront d'une manière ou d'une autre combattus, et certains plus combattus que d'autres. C'est vrai que Cheikh Rabia s'est beaucoup fait distinguer par le fait qu'il a pris de son temps de regarder, de vérifier qu'est-ce qui se passe sur la scène chez les musulmans, dans le prêche islamique. Qui sont ces personnes qui prêchent? Vu le résultat que ça a donné sur la jeunesse et vu les désastres et les déroutes, donc il y avait un problème quelque part. Peut-être que des gens se font passer pour des bonnes personnes, des bons prêcheurs, mais en réalité ils sont tout autres. Et donc on retrouve que des tendances ont infiltré les gens de la sunna pour briser les gens de la vérité de l'intérieur, comme l'ont fait, d'une manière ou d'une autre, les hypocrites auparavant. Il y a toujours eu des personnes, comme chez les musulmans, des personnes qui s'infiltrent chez les musulmans pour salir l'islam de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'un non-musulman, un mécréant, il ne sera pas écouté dans l'islam. Dans les questions religieuses, il ne sera pas écouté, il n'est pas musulman. Mais s'il est musulman d'apparence, et qu'il parle comme tout autre musulman, eh bien, sa parole, elle aura plus de considération. Et donc, ce sera plus facile pour lui de nuire. Comme Paul, il l'a fait avec la chrétienté. Paul, il s'est infiltré, c'était un juif, il s'est infiltré chez les chrétiens, et c'est lui qui a ramené toutes ces mauvaises croyances qu'on retrouve chez les chrétiens, et les déviances chez les chrétiens. Et il les a détournés du véritable message de Isa, alayhi salam. Abdullah ibn Saba, qui était un juif yéménite, à l'époque même des compagnons, il a compris que s'il veut vraiment atteindre la communauté, il faut qu'il entre dans l'islam. Et il entre dans l'islam et il fait les dégâts qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, on les vit. Le fruit, parmi les fruits de l'appel du prêche de Abdullah ibn Saba, il y a le chiisme. Parmi les fruits du prêche de Abdullah ibn Saba, il y a le khawarij. Et parmi les phrases connues de Abdullah ibn Saba, il a dit « Faites apparaître l'appel au bien et l'interdiction du mal. » Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Faites-vous passer pour des gens que tout ce que vous faites, c'est parce que vous voulez appeler au bien et interdire le mal. Et faites aussi salissez l'image des gouverneurs auprès de la communauté. Voilà. Que les gens, il faut qu'ils aient le dégoût des gouverneurs, de leurs gouverneurs. Une fois qu'il y aura cette séparation, cette scission, il n'en faudra pas beaucoup pour que le mal et le trouble règnent. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi un peu à trouver des oreilles qui ont écouté et qui sont tombées dans ce grand piège. Et donc, de temps à autre, il y en a. Ça, c'est le décret d'Allah dans sa création, qu'il y aura toujours le combat entre le vrai et le faux. Il y a ceux qui combattent clairement, ouvertement, et ceux qui combattent indirectement ou d'une manière ou d'une autre, qui se cachent derrière un rideau, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à les détecter ou à savoir la réalité de ces choses-là. Donc, Cheikh Rabir, pour en revenir, il a décidé de vérifier réellement ce qu'il y a dans certains ouvrages et certains prêchent. Et la découverte, elle fut désastreuse. Mais les gens, surtout de par leur ignorance, lorsqu'ils s'attachent à des gens, ils ne s'attachent pas d'une manière légiférée. Parfois, souvent, ils ont de l'excès, de l'exagération, de sorte qu'ils n'acceptent plus une quelconque critique ou parole sur quelqu'un, qu'ils sont prêts à le défendre sans même le connaître, à le défendre coûte que coûte. Jusqu'à même on retrouve des gens, bon là c'est une sommité dans l'égarement, dire je suis avec lui même s'il est dans le faux. Ça c'est un degré, pour l'atteindre il en faut beaucoup. Jusqu'à même que quelqu'un pourrait dire même s'il va dans le feu je vais aller avec lui. A'oudou billah. Regardez l'amour, l'excès dans l'amour, où est-ce que ça peut amener. Et un des emblèmes
qu'il ne fallait pas trop s'attarder dessus ni s'attaquer à lui, c'était Saïd Qutb. Et lorsque Cheikh Rabi', ce n'est pas le premier qui a détecté ou qui a lancé le signal. D'autres l'ont fait avant lui. Seulement, ils l'ont fait, mais d'une manière brève. Lui s'est attardé dessus. Parce qu'avant Cheikh Rabi', Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, hein, dans des certaines situations, il en a parlé. Il a parlé des gravités qu'il y avait dans les écrits et des ouvrages de Saïd Qutb. Mais les défenseurs de Saïd Qutb sont de différentes catégories de gens. Il y a ceux qui le défendent coûte que coûte, et ceux qui lui trouvent des excuses, et ainsi de suite. Et même des gens qui font croire, non mais en réalité, il est revenu sur son erreur, et ainsi de suite. Il y a Cheikh Abdullah Ad-Douaysh, un Cheikh saoudien, qui est mort en 1989, je crois, Rahimahullah, qui a écrit un livre sur, il a retenu les erreurs qu'il y a dans Fidhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran. Un soi-disant tafsir fait par Saïd Qutb. Et il a compilé dedans, je ne sais plus combien, je pense 80 ou erreurs dans ce tafsir, ou plus. C'est un livre qui est connu, un volume. Et c'est clair que les défenseurs de Saïd Qutb, et à leur tête la secte des frères musulmans, et toutes leurs factions qui sortent de chez eux, et ceux qui sont proches d'eux, et les chiites, car Saïd Qutb est vénéré chez les chiites, parce que les chiites lui reconnaissent qu'il les a rejoints dans des questions. C'est pour cela qu'à Téhéran, ils ont des boulevards, des écoles qui s'appellent Saïd Qutb, qui portent le nom de Saïd Qutb. Même Hassan al-Banna, comme Hassan al-Banna, qui est mort en 1949, il a toujours appelé au rapprochement avec les chiites, qui, ne l'oublions pas, sont les plus grands ennemis des compagnons. Ceux qui taxent les compagnons, la majorité des compagnons, de mécréance. Wal'iyadu billah. Ceux qui se moquent des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui les insultent de tous les noms. Wal'iyadu billah. Il a considéré que face à des ennemis communs, il faut être avec les chiites. Et il a ouvert un bureau de rapprochement avec les chiites au Caire. Ça, c'est Hassan al-Banna. Donc les frères musulmans n'ont fait que suivre la méthodologie entreprise par leur fondateur. Et Saïd Qutb, lui, dans ses écrits, dans différents écrits, il s'est attaqué. Il s'est attaqué même à un prophète, à Moussa alayhi salam. Il a parlé en mal de Moussa alayhi salam. Ils ne comprennent pas, ces gens-là, que ce n'est pas parce que les prophètes, on n'a pas le droit d'exagérer sur eux, on n'a pas le droit de les rendre divins, on n'a pas le droit de leur vouer un quelconque culte, on n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah. Ça, c'est du polythéisme majeur. C'est interdit, comme font les juifs et les chrétiens. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit en islam. Mais les prophètes sont à une place qu'aucun homme ne peut atteindre. Le comportement qu'on a vis-à-vis des prophètes, il est propre à eux. On ne parle pas d'un prophète comme on parle de n'importe quelle autre personne. Mais comme des gens ne sont pas éduqués, n'ont pas eu d'éducation islamique, et des fois, eux, ils peuvent appeler quelque chose d'islamique. Après, il faut vérifier. Est-ce que c'est véritablement islamique ou pas? C'est comme avec les compagnons. Ce sont des hommes, on est des hommes. Donc, il n'y a pas de problème à les critiquer ou à leur faire des reproches. Ils ne comprennent pas qu'après les prophètes, les compagnons n'ont pas le même statut que les autres hommes. Allah leur a donné un statut que tous les hommes qui viennent après ne l'ont pas. Sans les diviniser, sans exagérer sur eux, mais on leur donne la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donnée. Et donc il s'est mis à parler en mal de Uthman. Il ne reconnaît pas le califat de Uthman. Uthman, pour lui, c'est un trou, c'est un flou entre Omar et Ali. Et qu'en réalité, ceux qui ont tué Uthman, qu'Allah leur donne la punition qu'ils méritent, en fin de compte, c'est justifié. Parce qu'il y avait de l'injustice. Donc c'est ce qui les a poussés. Et eux, en réalité, ils avaient plus l'âme de l'islam que Uthman. Que dire des paroles qu'il dit sur Amr ibn al-As, radiallahu anhum ajma'in, sur Muawiya ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, Abu Sufyan ibn Harb, Wahind bint Utba, radiallahu anha. J'en passe. Voilà. Donc ça, ce sont des faits réels, concrets. Que dire que après cela, il s'est mis à considérer qu'il n'y a plus de musulmans, peut-être par sa propre personne et ceux qui sont semblables à lui, qu'il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de comité musulman. Et là, rendu mécréant toute la communauté musulmane, en masse, à tout va. Donc tout ce qu'il y a après, ce n'est que le résultat de ce prêche. Donc, quand Cheikh Rabi Hafidhahullah s'est intéressé surtout à ce personnage qui était une référence de toutes les tendances, les frères musulmans et leurs semblables, il a fait le lien que beaucoup de leurs dérives, elles viennent de l'étude et de la lecture des livres de Sayyid Qutb. De même que Hassan al-Banna et de Abu al-A'la al-Mawdoudi, le Pakistanais, qui est mort en 1979, le fondateur de Jama'a al-Islamiyya, le groupe islamique au Pakistan et en Inde, qui est aussi rejoint un peu Sayyid Qutb et Hassan al-Banna dans les idéologies, et qui est mort l'année de la révolution iranienne, en 1979. Et il a fait les éloges de Khomeini. Et il dit que ça fait partie, font partie des meilleures personnes. Tayyib. Et donc il a fait plusieurs ouvrages là-dessus. Il a fait Mata'in Sayyid Qutb, fi Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les insultes de Sayyid Qutb contre les compagnons, radiallahu anhum, Adwa Islamiyya, les projecteurs, lumière islamique sur les pensées, les idées, la croyance de Sayyid Qutb. Il a fait aussi Al-Hadd al-Fasl, ben al-Haqq wal-Batil, c'est-à-dire la limite distinctive entre la vérité et le faux, et le mensonge, et d'autres écrits concernant Sayyid Qutb. C'est le shir, le savant, qui s'est le plus intéressé et qui est le plus, pratiquement le plus connaisseur réellement de la situation de cette Qutb. Et de là, ben c'est normal, c'est de là, ses ennemis se sont levés et ont déclaré la guerre. Ça date depuis près de 20 ans maintenant, ça. Depuis près de 20 ans. Et de là, à ce moment-là, on a vu les visages apparaître. Et qui est qui vraiment? Et qui défend qui? Et qui véritablement est dans la sunna ou pas? Bien qu'il la faisait apparaître pendant un moment, mais c'est pendant les épreuves, ça c'est un des bienfaits qu'il y ait des épreuves. Parce que c'est pendant les épreuves qu'on découvre des choses qu'on n'aurait pas découvert sans ces épreuves. Donc, comme je vous avais dit, il est né en 1930, donc vous avez compris, il a près de 86 ans. Il s'est marié à l'âge de 15 ans. Son premier enfant, qui est un grand professeur de Médine, un cheikh connu, cheikh Mohammed ibn Rabi' al-Madkhali, pas cheikh Mohammed ibn Hadi. Ça, c'est de la même tribu, mais c'est lointain. Mais c'est son élève. Lui, son fils, on l'appelle cheikh Mohammed Rabi' al-Madkhali, qui est plus vieux que cheikh Mohammed ibn Hadi. Il a 70 ans, son fils. Son fils, il est retraité déjà. Parce qu'il l'a eu à l'âge de 16 ans. Ils n'ont que 16 ans qu'il est et qu'il les sépare. Hafidhahullah ta'ala. Tayyib. Il était donc professeur à l'université islamique de Médine et il était le doyen de la faculté des hautes études, donc tout ce qui concerne le magistère, le doctorat, dans le hadith, dans la faculté de hadith. Donc il dit dans Al-Muqaddimah, dans l'introduction,
après avoir fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, amma ba'd, fa hadhihi ahadithu sharifa ذات مواضيع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
Après ceci, voilà des hadiths, des nobles hadiths, dans différents sujets que j'ai choisi parmi les hadiths de celui à qui il était donné cette capacité de parler peu pour dire beaucoup. Celui à qui nous l'a donné, Jawami'ul Kalim. Les paroles, elles ont été réunies pour lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait cette capacité de parler peu pour dire beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça Allah lui a donné ce don. Donc il pouvait employer que quelques mots, mais qui voulaient en dire beaucoup. Et celui qui ne parle pas de part ou du fait de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Car comme vous le savez, Inch'Allah, la révélation est de deux sortes. On a le Coran, qui est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, incréée. Elle n'est pas créée. Elle vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et elle retournera à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la fin des temps, quand le Coran sera levé. Il sera levé, il retournera à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a révélé au prophète alayhi salatu wa salam, et souvent c'était Jibril alayhi salam qui venait avec les sourates et les versets coraniques au prophète alayhi salatu wa salam. Il y a une erreur que certains commettent. Vous savez, les gens qui ont l'isnad dans le Coran, vous avez déjà vu, entendu ou lu les isnad, les chaînes de lecteurs de Coran. Quelqu'un dit, moi j'ai pris le Coran d'un tel. Donc il a une ijaza, on appelle ça, il a une ijaza. C'est-à-dire qu'il a, il est relié jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Son professeur, le professeur de son professeur, et ainsi de suite. Et ça va comme ça, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On arrive aux tabi'in, aux compagnons, radiyallahu anhum, et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils disent, an rasulillah, an jibril. D'accord ? Donc, après, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jibril. Et parfois, qu'est-ce qu'ils mettent après Jibril? Ils disent que Jibril l'a pris d'où? Des tablettes bien préservées. Pour ne pas dire que c'est la parole d'Allah. Voilà. Que Jibril l'a pris directement de Lawh al-Mahfouz. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Et dedans, il y a comme un vice caché.
Minha ما يدعو الى توحيد الله.
Donc moi je vous disais, la révélation, il y a le Coran, le livre sacré, et il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Donc là il fait allusion au verset coranique où Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Taha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne parle pas du fait de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. De même que certains compagnons disaient, « Kana Jibril, alayhi salam, yenzilu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bis sunnah, kama kana yenzilu alayhi bil Qur'an. » Que Jibril, alayhi salam, venait, descendait vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la sunnah, comme il le faisait avec le Qur'an. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إني أوتيت القرآن ومثله معه. Certes, il m'a été donné le Coran et son égal, son semblable avec. Et la sunna, elle va de pair avec le Coran. Elle va de pair avec le Coran. C'est une erreur. Certains pensent que quand on cherche une réponse musulmane à une question, on regarde d'abord le Coran. C'est une fois qu'on n'a pas trouvé dans le Coran qu'on retourne à la sunna. Non, on recherche dans le Coran et la sunna ensemble. Ils vont de pair. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le Coran et la sunna, elle vient détailler, expliquer le Coran. Et même ramener des choses qu'on ne retrouve pas clairement ou explicitement dans le Coran. Elle est au même stade dans la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le précise que lorsqu'il dit que si on s'accroche, on s'attache au Coran et à la Sunna, on ne sera jamais égaré. Il a dit les deux. Et puis il précise qu'ils ne seront jamais séparés jusqu'à qu'ils soient présentés devant lui, devant son bassin, al-Hawd, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. Donc j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne serez égarés tant que vous y attachez. Le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne se sépareront jamais. Ils resteront ensemble. Jusqu'à qu'il soit présenté à moi devant le bassin du prophète alayhi salatu wasalam, qui est Al-Hawd. Comment ils seront présentés à lui? Allahu A'lam. De quelle sorte ils seront présentés à lui? Allahu A'lam. Ce qu'on sait, ce qui nous est rapporté, c'est qu'ils seront présentés à lui, Yawm al-Qiyamah, devant son bassin alayhi salatu wasalam. منها ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. Parmi ces hadiths, il y en a qui invitent, qui appellent au monothéisme, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de lui vouer un culte à lui seul et d'être sincère dans son adoration. ومنها ما يحذر من الشرك وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِ الْمُوبِقَاتِ. Et parmi ces hadiths, il y en a qui invitent, qui appellent, qui mettent en garde, qui préviennent contre le polythéisme, l'association, les innovations et les péchés destructeurs. وَمِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَى حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. Et parmi ces hadiths, il y en a qui invitent, qui appellent à l'amour d'Allah, de son messager et des croyants. وَمِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ مَنْهَجِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ. Et parmi ces hadiths, il y en a qui invitent, qui appellent à l'attachement au livre et à la sunna, et de suivre la méthodologie, la voie des califes bien guidés et les gouverneurs bien guidés. C'est eux, les califes bien guidés. Ici, imam, le terme imam, c'est celui qui est devant. D'accord ? C'est celui qui est suivi. C'est pour cela que celui qui préside la salat, on l'appelle imam. Parce qu'il est devant. Les gens le suivent. C'est lui qui préside. Et de même, celui qui préside l'État en islam, en arabe, on l'appelle aussi imam. Et aïma, c'est le pluriel. Donc il faut bien savoir, lorsque vous lisez le mot, dans quel contexte il est employé. Donc même dans celui qui gouverne, on l'appelle aussi imam. Et dans le hadith de Nasiha, Ad-Dinu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dinu, Al-Nasiha, trois fois, Qulna liman ya Rasulallah, qala lillahi, ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il a dit la religion, c'est le conseil sincère. On a dit envers qui? Au messager d'Allah. Il a dit envers Allah, son livre, son messager, les gouvernants musulmans ainsi que la masse des musulmans. Donc Aïma ici, c'est les gouvernants. Et dans le hadith des sept qui sont sous le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le premier il a dit imamun Adil. Imamun Adil. Un gouvernant juste. Il faut bien savoir l'explication du terme au moment où il est employé. Ici, il est voulu le gouvernant. اخترتها لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي التي تقوم بها الجامعة الإسلامية. Donc je les ai choisis, j'ai fait choisi un recueil de hadiths pour les élèves, les étudiants, ceux qui participent au séminaire de la langue arabe et des sciences religieuses islamiques, le niveau supérieur et universitaire qui est entrepris par l'université islamique de Médine. التي تبنت أهدافا إسلامية كبرى, hein, qui s'est donné comme mission des grands objectifs islamiques. محاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية, et qui est d'une manière de réformer la situation, les situations des musulmans d'un point de vue religieux, comportement et social. ومحاولة العودة بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة. Et c'est aussi une manière de les faire retourner, de les ramener vers l'attachement au livre et à la sunna.
وجندت ما تملكه من إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف السامية.
Et elle a mis en place tous les moyens qu'elle avait pour pouvoir atteindre et réaliser ses objectifs, ses nobles objectifs.
ومن ضمن برامجها الإصلاحية إقامة دورات تدريبية في العديد من البلدان الإسلامية لمدرسي اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية.
Et parmi ces programmes mis en place pour réformer, il y a les séminaires d'entraînement dans beaucoup de pays musulmans pour les enseignants dans les écoles musulmanes, dans les écoles arabes, ou dans les instituts, dans les centres, ceux qui enseignent l'arabe, qui enseignent les sciences religieuses, pour les mieux les former, et mieux les préparer à la tâche qui les attend.
وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحا أرجو أن يكون مناسبا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها.
Et j'ai fait un commentaire de ces hadiths choisis, un commentaire dont j'espère qu'il soit à la hauteur, hein, au degré de ces hadiths et à la place de ces hadiths, et clarifiant le but et l'objectif du hadith.
شرحت مفرداتها ووضحت مجملاتها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل.
Donc j'ai expliqué les mots, donc l'explication des mots qui sont employés dans le hadith, le vocabulaire, l'explication du vocabulaire employé dans le hadith, et j'ai clarifié ce qui n'était pas clair dans certaines paroles, et j'ai aussi fait découler, sortir toutes les leçons à retenir, hein, de ces hadiths.
ثم وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يمرن الطالب على استخراج المسائل وتكون ممارساتها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء.
Et j'ai terminé chaque chapitre par des questions, quelques questions qu'on pourrait poser aux élèves, d'accord, pour les habituer à bien comprendre et à faire aussi sortir les règles et à sortir les leçons de ces hadiths.
وتنمي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل,
et aussi pour aussi l'aider à mieux parler la langue arabe, parce que comme souvent c'est des pays où la langue arabe n'est pas la langue officielle. Et aussi de formuler des phrases, de construire des phrases avec des mots. Donc il apprend du vocabulaire. D'accord ? Et en même temps, ça pourra l'aider à former des phrases.
وفي الفقه وفي الوقت نفسه ترسخ في نفسه العقيدة الصحيحة.
Et au même moment, en même temps que tout cela, d'accord, il y a, entre en lui, et soit bien ancré en lui, la croyance authentique. Et ça, c'est une réalité. Celui qui est dans le bon chemin, le droit chemin, et qui a compris l'importance du tawhid, le tawhid, on le retrouve dans tout ce qu'il fait. Comme il dit, dans une parole, dit Cheikh Rabi, il dit, le tawhid, on le retrouve même chez celui qui enseigne la géographie. Il enseigne une matière qui est la géographie, et bien dedans on retrouve le tawhid. Ça c'est pour les personnes qui ont très bien compris l'importance du monothéisme et qui sont sur le bon chemin.
وتشد عقله ومشاعره الى حب الله ورسوله واتباع الكتاب والسنه.
Et bien sûr, cet enseignement, le contenu de cet enseignement vient à prendre son esprit et le pousse vers l'amour d'Allah, de son messager et le suivi du livre et de la sunna. Car le but de l'apprentissage, d'étudier, on n'étudie pas pour rien. Parce que j'ai rien à faire, j'ai envie d'aller étudier. Non, ça c'est pas un objectif. Aussi, on n'étudie pas seulement pour tenir tête à des gens. Moi j'étudie comme ça, la prochaine fois, j'aurai de quoi répondre aux gens. Et je me passerai pas pour n'importe quelle personne dans une assemblée. Si c'est ça tes objectifs, c'est pas la peine. Allez, ça va être contre toi. Un témoignage contre toi. Subhanallah. Ou tu apprends pour montrer ta science, pour montrer que tu connais. De là, on comprend que de dire que quelqu'un connaît, mais un tel, il a étudié ça, il a étudié ça, il a étudié ça, il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça, il mémorise ça, il mémorise ça, il mémorise ça. C'est bien, mais la finalité, elle est où? Si rien ne se remarque en lui, si cet enseignement ne lui est d'aucune utilité, ne lui a pas été bénéfique, à quoi ça sert de répéter ça? Subhanallah. Il est même pire qu'un ignorant. Un ignorant pourra toujours dire, il ne savait pas. Il faut lui apprendre. Lui, il est là, il dit, je sais. Tu sais et tu n'appliques pas. La raison d'apprendre, c'est quoi? C'est d'appliquer, déjà pour toi-même. Avant même de parler aux autres. C'est pour toi-même. J'apprends, j'applique. Et c'est pour cela que Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsqu'il dit, dans Usul Thalatha, il explique au début qu'il faut des points importants, essentiels à chacun d'entre nous. Chaque musulman, il faut quoi? L'apprentissage, puis la mise en pratique. Vient juste après la mise en pratique. Donc, celui qui sait et qui n'applique pas, il ressemble à qui? Aux juifs. Et celui qui est pratique, mais avec ignorance, il ne sait même pas ce qu'il fait, il ressemble à qui? Aux chrétiens. Donc, les uns, les premiers, Allah est en colère après eux. Et les seconds, ce sont les égarés. Les uns parce qu'ils savent et ils ne font pas, et les autres parce qu'ils font avec ignorance. Il faut les deux. Apprendre et appliquer, et pratiquer. La pratique, elle suit l'apprentissage. L'apprentissage, il a toute son importance, et la pratique, elle a toute son importance.
وإني لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية.
Et j'espère en Allah que cela soit bénéfique pour beaucoup de parmi les enfants de la communauté islamique.
كما أرجو أن يتقبل الله مني هذا الجهد المتواضع.
De même que j'espère qu'Allah acceptera de moi cet effort minime et modeste.
وأن يجعله خالصا له. Et qu'il fasse que cette œuvre soit sincère, accomplie sincèrement pour lui.
إنه سميع الدعاء, car il est celui qui entend l'invocation.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Et que la salutation et la paix soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et c'est daté في 16 من الشهر الرابع من عام 1406 هجرية. Le 16-4-1406 de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a 31 ans de ça, que ça a été fait. Dans les années 80. Tayyib.
Al-Hadith ou Al-Awwal.
Le premier hadith. Donc le shir, quand il va vendre, c'est un hadith, il met un titre. Hein, il met un titre. D'accord? C'est un peu le contenu, le sujet du hadith.
منهج الدعوة إلى الله.
La méthodologie dans le prêche à Allah. Le livre, je ne sais pas s'il y a en français, mais en arabe il y est. il y est. Moi, j'ai l'édition que j'ai, c'est l'édition de l'Université islamique de Médine, où plusieurs ouvrages sont dedans. Sinon, il existe un ouvrage tout seul. Un ouvrage tout seul, il existe. منهج الدعوة إلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. D'après Ibn Abbas, je vais essayer de traduire que le hadith sans détailler puisque ça vient après, d'accord, pour ne pas se répéter. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Mu'ad au Yémen, il lui dit, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un de ses compagnons prêchait l'islam en terre mais de mécréance. D'accord ? Donc il l'envoie, lui, il lui a dit, toi, tu vas au Yémen. Tu appelles les gens à l'islam. Il lui dit, tu vas aller vers des gens du livre. De quelle catégorie de mécréants ils sont au Yémen à ce moment-là ? Ce sont des gens du livre. Il y a des chrétiens, il y a des juifs au Yémen à ce moment-là. Que la première chose à laquelle tu les appelles, que tu les invites, est le témoignage de la ilaha illallah. Que nul n'est adoré en vérité, si ce n'est Allah. Qu'il n'y a pas de véritable divinité en dehors d'Allah. Et dans une autre variante, tu les appelles à qu'ils unifient Allah, c'est-à-dire qu'ils adorent que Allah seul. Si ils t'obéissent à ça, à cet appel, ils répondent favorablement à cet appel. Alors, apprends-leur qu'Allah leur a ordonné 5 prières dans la journée et la nuit. Vous avez vu les étapes ? Et il lui dit, hein, s'ils ont obéi, ils ont accepté, à ce moment-là, tu entames la deuxième étape. Si ils obéissent, ils acceptent, ils répondent favorablement, alors apprends-leur qu'Allah leur a ordonné une aumône, la zakat, qui est prise de leurs riches pour être versée à leurs pauvres. Si ils acceptent, répondent favorablement, alors fais attention et apprends les bons cadeaux de leur part. Hein? Donc, de ne pas les prendre. Et fais attention et à l'invocation de l'opprimé. Méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Elle va directement chez Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darimi et Ahmed. Donc là, on entre dans le commentaire de Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il dit « Rawi al-hadith ». Le rapporteur du hadith, c'est qui? Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi ibn Ammi Rasulillah al-Habru al-Bahru lisi'ati ilmihi وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنة 68. عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما les deux, qu'Allah les agrée les deux, le fils et le père, parce que les deux ils étaient musulmans. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Donc, Abdullah, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur père, ils sont frères. D'accord ? L'Abbas, c'est le frère de Abdullah. C'est le frère de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Abbas est l'un des deux oncles qui est entré dans l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a l'Abbas et on a Hamza. D'accord ? C'est les deux oncles. Au moment de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quatre oncles. Il en avait beaucoup. Mais à ce moment-là, au moment de sa prophétie, il ne nous reste que quatre. Deux embrassent l'islam et deux ne veulent pas. Les deux qui embrassent l'islam, on vient de les citer, c'est Hamza et l'Abbas. Et les deux qui ont refusé, l'un a combattu le prophète sallam, l'autre ne l'a pas combattu, il l'a même défendu. Mais il n'est pas entré dans l'islam. L'un c'est Abu Lahab, d'accord, et l'autre c'est Abu Talib. Abu Talib, le père de Ali. Hein, le père de Ali ibn Abi Talib. C'est le père de Ali. Ali c'est le cousin du prophète sallam. Et Ali c'est le frère de Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib. Ce sont les cousins du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, Al-Abbas. Al-Abbas vivra après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivra pendant le califat d'Abu Bakr et même pendant le califat de Omar, radiallahu anhu. Hein, vous connaissez le hadith, lorsque Omar, radiallahu anhu, voulait demander la pluie. Hein, hadith, hein, de là. Et il faisait appel à Al-Abbas pour que Al-Abbas invoque. Et ça, c'est le tawassul mashrou'. On est dans le tawassul al-mashrou', c'est le tawassul qui est légiféré. C'est de demander à quelqu'un de vivant de faire des du'as. Tu lui demandes de faire des du'as, ça c'est quelque chose qui est permis. Et ce hadith, c'est ce qu'il vient prouver. Al-Hashimi, hein, donc parce qu'ils sont de Banu Hashim, c'est une grande famille dans la tribu de Quraysh. Le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un océan de science, un grand connaisseur de la religion et des sciences de l'islam, et l'un de ceux qui ont le plus rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons. Wa ahadul abadila, et un des abadila. Qui sait que veut dire le mot abadila? Ahadu al-Abadila. Il y en a, ils l'ont déjà entendu. Mais peut-être qu'ils ont oublié. C'est voilà. C'est tous ceux qui s'appellent Abdullah. Un groupe de personnes qui s'appellent Abdullah, on dit al-Abadila. Il s'appelle comment? Abdullah. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Rawaha. Et donc c'est l'un des Abdullah parmi les compagnons. Il y avait un groupe qui s'appelait Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'accord ? Voilà, lui c'en est un, voilà, parmi les grands savants des compagnons. Il est mort en l'an 68 de l'Hégire. Il est mort en l'an 68 de l'Hégire. Et c'est l'un des plus grands exégèses du Coran, hein, reconnu depuis l'époque des compagnons. Et les ulama nous disent que ça c'est l'exos de la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a exaucé la demande du prophète sallam. Le prophète sallam a fait des doigts pour son cousin. Il a dit Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la bonne compréhension de la religion, la connaissance de la religion, qu'il soit versé dans la religion, ainsi que l'explication du Coran. At-ta'wil bima'na at-tafsir. Ta'wil bima'na at-tafsir, pas ce qu'en ont fait les gens plus tard. Le mot ta'wil, ils l'ont remplacé par un mot qu'ils savent que si jamais ils le gardent, ça passera pas. C'est tahrif. L'altération. Et le tahrif, quand ils donnent un sens qui n'est pas le véritable sens d'un texte, ils disent on a fait ta'wil. Et ta'wil, on peut le faire. Et on a des textes qui nous parlent de ta'wil. Ils changent le sens des mots et ce n'est pas le sens voulu à l'époque de la révélation et à l'époque employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-ta'wil bima'na at-tafsir. Ça, c'est le sens original. Après, pour ne pas employer le mot tahrif, hein, ils l'ont changé avec le mot ta'wil. Al-Mufradat. Là, c'est Al-Mufradat, le vocabulaire. D'accord ? Al-Mufradat, c'est le vocabulaire, les mots employés, les termes employés. Ba'atha arsala. C'est envoyé. D'accord ? Donc là, il donne un synonyme. Voilà. Ba'atha, c'est arsala. Ahlul kitab, humul yahoudu wal nasara. Les gens du livre. C'est les juifs et les chrétiens. Parce qu'ils ont reçu des livres sacrés qui sont révélés par Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Injil, c'est l'évangile révélé à Jésus, Isa alayhi salam. Isa n'a pas reçu la Bible, hein. Il a reçu l'évangile, d'accord. Mais comme ils ont plusieurs versions d'évangile, donc c'est pour ça qu'ils les compilent, hein, et ils disent l'évangile selon les rapporteurs. D'accord ? Selon Luc, selon Thomas, selon Jean, selon Barnabé, et ainsi de suite. Et la Torah, At-Tawrah, qui a été révélée à Moussa, alayhi salam. Enfin, il rajoute même aussi les psaumes, Az-Zabur. C'était révélé à qui ? Daoud, à David, alayhi salam. Et une fois tout réuni, on appelle ça, ils appellent ça la Bible. Et la Bible, c'est le livre. La bibliothèque, c'est l'endroit où on met les livres. D'accord, c'est l'endroit où on range les livres. Ça vient de là.
Shahadatu an la ilaha illallah. Al-i'tiraf bi annahu la ma'buda bi haqqin illallah. Wa anna ibadata ma siwah batilatun wa shirkun billah. Le témoignage, l'attestation de la ilaha illallah. La reconnaissance qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration, adorée en vérité, si ce n'est Allah seul, l'unique. Et que l'adoration d'autre que lui est vaine, fausse, et c'est une association à Allah. C'est du polythéisme. Yuwahidullah yufriduhu bil'ibadati wahdah. C'est-à-dire qu'il l'adore lui seul, l'unique. Iftarada, le verbe iftarada, aujaba wa hatama. C'est un acte obligatoire. L'ordre de faire. Sadaqa al-muradu biha al-zakatu al-mafrouda. Ici, le terme sadaqa, il est voulu précisément la zakat obligatoire. D'accord ? Donc le terme sadaqa, il est plus vaste, plus général. Il englobe aussi la zakat. La zakat, bien que c'est un acte obligatoire à un moment donné, mais c'est une sadaqa, c'est un don que tu fais. C'est une sadaqa, mais elle s'appelle la zakat. Et on l'appelle aussi sadaqa. Dans le verset coranique où il dit les catégories à qui on donne la zakat, Allah, il a employé le mot sadaqa. Innama sadaqatu. Mais ici, il est voulu
la zakat. Mais la sadaqa, elle peut être donnée à différentes, bien plus de personnes que la dépense de la zakat. Ata'uka inqadu wa mtathalu. Ils se sont pliés. D'accord ? Ata'uka est tombé, c'est-à-dire ils se sont pliés et ils se sont exécutés. Kara'im amwalihim. Khiyar al-mal wa anfasih wa aktharuhu thamanan. De prendre ce qu'il y a de plus cher chez eux. D'accord ? C'est-à-dire que si tu viens à récupérer la zakat, parce que en islam, le gouvernant, l'autorité est en droit d'envoyer des fonctionnaires pour aller ramasser les zakats chez les gens. Donc ils vont faire le tour chez les gens et les gens leur remettent leurs zakats. Et l'État, l'autorité, le gouvernant, il aura comme fonction de distribuer, une fois ramassé cette zakat, de la redonner, de la redistribuer aux ayants droit. Et si l'État, les autorités s'en occupent et tu leur as donné, tu t'es acquitté de ton devoir. Ça y est, c'est fini pour toi. Et ceux qui travaillent, qui ont cette fonction de ramasser les zakats, Allah tabaraka wa ta'ala les a mis, ces gens-là, ces fonctionnaires, dans les personnes qui peuvent avoir droit à la zakat. Dans les 8 catégories, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. Et ceux qui y travaillent. Ceux qui ont fonction de ramasser la zakat, hein, donc qui sont nommés par les autorités et qui vont ramasser la zakat, ceux-là ont le droit à recevoir une partie de la zakat. Et donc, celui qui vient et qu'on lui donne, les gens lui donnent de leur zakat, il ne faut pas qu'il leur réclame ce qu'il y a de plus cher. Par exemple, il vient prendre des bêtes. Qu'il ne leur demande pas, donnez-moi les meilleures de vos bêtes. Hein, les plus grandes de vos bêtes. D'accord ? Ou dans les récoltes et ainsi de suite. Mawdou' al-hadith. On va s'arrêter là, inshallah, on le terminera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.